Bonjour à tous. Un excellent jour de sabbat et de méditation pour chacun de nous. Nous vivons en ce moment dans un temps où l'humanité se retrouve au seuil de décisions importantes à prendre pour ce qui est de sa survie et de tout ce qui vit autour d'elle. Des choix lui ont été proposés il y a des décennies pour ce qui concerne son bien-être et une longévité de vie dans une certaine harmonie. Et on peut voir et constater que les gens aujourd'hui sont très stressés, très malheureux, recherchant des choses qui sont de ce monde. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous tous un phénomène présent dans beaucoup de personnes dans le monde et pour peut-être certains d'entre nous. Cela restera à être vérifié pour chacun de nous personnellement. J'ai pris connaissance d'un document il y a quelques semaines et ça parlait de choses tristes, perturbantes et inquiétantes dont une grande quantité de personnes en sont malheureusement athées. J'ai appelé ce document le syndrome de l'acceptation, ce qui m'amène au titre de mon exposé aujourd'hui. Aimons-nous notre apparence? Aimons-nous notre apparence? J'ai le désir de partager avec vous tous cette malheureuse situation qui se vit dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont égocentriques et cela touche toutes les couches de la société moderne dans laquelle nous vivons et dont nous devons nous méfier pour ne pas être envahis par ce mal qui gruge notre société et peut nous rendre captifs de ce phénomène qui affecte des personnes comme une gangrène qui ronge l'individu de son intérieur pour l'amener petit à petit vers sa destruction. Plusieurs de ces personnes ont une grande perte de confiance en elles, sans compter que leur environnement est saturé à l'idée de la beauté physique que doit représenter une personne et peu importe le statut social de l'individu. Certaines personnes savent pertinemment qu'elles doivent accepter leur corps, et cela même si elles sont conscientes que Dieu les a créées comme elles sont. Je voudrais faire une petite distinction ici à l'égard de trois catégories de personnes qui existent sous l'aspect physique que propose mon exposé. Il y a ceux qui sont nés sans problème ou complications physiques. Il y a ceux qui sont nés avec des infirmités physiques. Et il y a ceux qui, par le biais d'un accident quelconque, se sont retrouvés avec une infirmité ou une déformation physique irréparable. Il y a quelques jours, en allant faire le plein d'essence, j'ai croisé un homme que je connais visuellement depuis plusieurs années et que je n'avais pas revu depuis le temps. Cet homme est né avec une infirmité au niveau de sa colonne vertébrale, ainsi qu'au niveau de son cou et de son visage. Il a le cou aussi large que le visage, et une moitié de son visage est plus bas que l'autre moitié d'environ 2 cm, peut-être un peu plus. Ce qui fait que lorsque vous le regardez, il a un visage assez déformé, ce qui peut être une certaine attraction visuelle pour les personnes non préparées à ce genre de rencontre. Et pour combler le tout, sa colonne vertébrale forme un S dans son dos. Aujourd'hui, cet homme a probablement une quarantaine d'années, et dans son cas, il devra vivre avec cette infirmité pour le reste de sa vie, à moins d'une intervention miraculeuse de Dieu. Et je ne peux qu'imaginer la détresse psychologique que cet homme peut ressentir en se regardant à chaque jour dans un miroir, sachant qu'autour de lui, presque toutes les personnes qu'il rencontre ont un aspect équilibré en tant que corps physique. Vous en conviendrez avec moi qu'avec une telle apparence physique, il est très difficile de se regarder dans un miroir, d'accepter cette situation et être en paix avec soi-même. Maintenant, voyons le deuxième cas. Ceux qui, par un fâcheux accident, se retrouvent handicapés pour le reste de leur vie. Certains, ce sont des accidents imprévisibles, alors que d'autres auraient pu être évités. Permettez-moi de vous raconter un de ces malheureux incidents. Je connais un homme qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années. À l'âge de 16 ou 17 ans, il a eu un accident de motocross, les fameuses motos de montagne. Dans son parcours sur la montagne, il a sauté dans les airs avec sa moto, espérant qu'il retomberait sur ses deux roues de l'autre côté de la pointe de la montagne, comme il le faisait régulièrement en tout temps. À la différence qu'à ce dernier saut, il est retombé sur une autre moto qui venait en sens inverse. Depuis ce temps, cet homme est paraplégique. Pour marcher ne serait-ce que quelques mètres, ça lui prend plusieurs minutes, alors que nous, ça nous prendrait quelques secondes. Aujourd'hui, la boisson comble une partie du vide de sa vie. Est-ce qu'il s'épanouit? C'est très peu probable, même s'il essaie de rire à travers ce désarroi. Malheureusement, trop de personnes se retrouvent dans cette terrible position, position qui aurait pu être évitée. Nos choix nous guident vers des directions qui nous permettront de nous épanouir ou de souffrir. Ce fut le cas de ce jeune homme avec sa moto. Tout espoir d'une vie remplie de merveilleux moments tout au cours de sa vie s'est évanoui par un fâcheux incident de parcours qui a ruiné sa vie et qui malheureusement en paie un prix encore aujourd'hui exorbitant, et cela pour le reste de sa vie. Passons maintenant au troisième cas, celui qui doit nous intéresser et nous amener à se questionner sur nous-mêmes. Ici, je voudrais apporter votre attention sur l'aspect physique d'une personne, tout en gardant à l'esprit que l'aspect psychologique et l'apport ou la contribution du spirituel ont un impact immédiat, comme pour voir si ce phénomène est destructif ou constructif. Dans la réalité de tous les jours, beaucoup de personnes sont conscientes du phénomène en question, la beauté physique. Et certaines de ces personnes aimeraient réprimer cette plaie qui les affecte, mais avouent qu'ils ignorent comment y arriver. Il est important de reconnaître que ce phénomène ne touche pas uniquement la gence féminine, il affecte également les hommes. Allons à un premier passage, s'il vous plaît, dans 1 Samuel. 1 Samuel. Je prendrai 1 Samuel 16 et j'irai au verset 6 et 7. 1 Samuel 16, au verset 6 et 7. Ici, c'est Samuel qui avait été mandaté pour aller oindre David. Alors, lorsqu'il rentra chez le père d'Éliab, lorsqu'ils entrèrent au verset 6, il dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. » Au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est un passage que nous avons visité dans d'autres exposés, mais par contre très percutant à l'égard de la vision que nous devrions avoir sur chaque humain et surtout comment chaque personne devrait se voir elle-même face aux autres. Connaissant la vision de Dieu sur l'aspect physique des hommes, essayons de voir à quel moment ce problème a-t-il commencé pour ceux qui aujourd'hui en sont esclaves. Est-ce à l'école, lorsque les autres enfants plaisantaient au sujet de leur nez, ou de leurs oreilles en forme de papillon tellement elles étaient dégagées de leur tête, de leur poids ou encore de leur constitution. Il se peut même que ces personnes ont rigolé avec eux, mais au fond d'eux-mêmes, cela leur faisait mal. Et malheureusement, ces événements ont pu les marquer profondément. Devant de tels impacts psychologiques, nous sommes toujours portés à nous comparer à ceux qui sont beaux, qui ont une belle apparence et qui sont populaires. Intérieurement, on se dit, si seulement nous pourrions leur ressembler, comme ce serait merveilleux. Mais nous nous rendons compte assez rapidement que la chose n'est pas possible. Alors vient l'abandon et on se dit « jamais nous ne serons acceptés ». Permettez-moi de vous faire part d'une expérience vécue personnellement. Et elle cadre bien dans cet exposé afin de prévoir de bonnes réactions pour ne pas céder devant l'imprévu. J'avais 18 ans à ce moment-là et j'aimais énormément la danse sociale. C'était la première fois que j'allais dans une salle, une soirée où on pouvait danser. J'étais un peu naïf et un peu gêné d'aller inviter une demoiselle que je ne connaissais pas pour une danse. Il y avait à une table trois jeunes filles. J'ai fixé mes yeux sur une d'elles et je pris mon courage à deux mains et elle a invité cette personne à partager quelques pas de danse. À ma grande surprise, la demoiselle me dit devant ses deux amies, « Regarde comment tu fais dur, je ne vais pas danser avec toi. » Comme vous devez y penser, la douche fut glacée. C'était mes premières expériences dans ce que nous appelions à ce moment-là le monde civilisé. Je me serais cru dans un lac en Sibérie tellement j'étais figé de sa réaction. Et il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir réinviter une demoiselle à danser. Comme je l'ai mentionné dans le titre de mon exposé, aimons-nous notre apparence? Eh bien, à ce moment-là, j'avais perdu totalement confiance en moi. Et un énorme malaise m'envahissait. Suis-je aussi laid qu'elle le dit? Je n'avais pas Dieu dans ma vie à ce moment-là. Mais pourquoi accordons-nous tant d'importance à la beauté? Les modèles de la publicité nous présentent des physiques des plus agréables, une norme qui est cependant inaccessible à la majorité de l'humanité. Et il faut également en arriver à l'évidence que ces modèles ont été, pour la plupart d'entre eux, remodelés par la technologie médicale. Mais encore une fois, est-ce vraiment si important l'apparence? Pas aux yeux de Dieu. Car il déclare qu'il nous juge sur ce que nous sommes intérieurement. Pour lui, ce que nous pensons a beaucoup plus d'importance que notre apparence extérieure. Nous pouvons constater cela avec le prophète Samuel que nous venons de lire il y a quelques instants. Retournons à Samuel 16, s'il vous plaît. Samuel 16, on est déjà dedans. On va lire le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici. » Au verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel, en voyant Éliab, avait la certitude qu'il s'agissait de celui que Dieu avait choisi. Mais au verset 7, Dieu fait comprendre à Samuel comment lui, il choisit quelqu'un, quels sont ses critères de sélection et à l'égard du choix d'une personne qu'il veut appeler. La plus grande chose en importance pour un enfant de Dieu est de bien comprendre que ce n'est pas ce monde qui peut en ce moment réjouir nos cœurs, combler nos vies. Ce que le monde a à offrir n'est que le résultat éphémère d'un désir immédiat qui ne pourra jamais combler les exigences d'un bonheur durable. Seul Dieu peut combler ce vide qui pourrait nous envahir et nous permettre de comprendre et de vivre en paix avec soi-même et avec Christ qui nous permet de saisir l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui, être heureux maintenant et heureux plus tard dans sa famille, dans la famille divine. La complication qui se présente aux personnes aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans une spirale d'idées et de profils bien arrêtés sur l'attrait de ce qui est beau et indispensable à avoir pour eux. afin de combler ce vide qu'ils n'arrivent pas à identifier, comme étant la chose la plus importante qui devrait être le but premier pour comprendre ce qu'est le bonheur. Ce vide est le rejet d'un être suprême qui connaît ce qu'est le bonheur et surtout comment l'acquérir. Toute démarche dans la vie de tous les jours pour obtenir un peu de bonheur est reliée à des lois qui, si elles ne sont pas prises au sérieux, amènera inévitablement la confusion, le désespoir et la défaite d'un espoir d'être heureux. Le bonheur, le vrai bonheur, ne peut être attribuable qu'aux personnes qui le cherchent vraiment et qui ont le désir de poser les gestes qui permettront cet épanouissement personnel. Mais comment se voit-on nous-mêmes en tant qu'individus face à la ressemblance de Dieu? Allons à Genèse, s'il vous plaît. On était dans Genèse il y a quelques instants. Genèse, nous prendrons le chapitre 1. C'est un verset que nous connaissons très bien et c'est pour nous identifier à qui nous ressemblons. Genèse 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu est amour, et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Le véritable amour nous dirige dans la bonne façon d'aimer notre prochain, et pour réussir à aimer son prochain, il en va de soi qu'il est important que nous nous sentions bien avec nous-mêmes pour pouvoir accorder cet amour que Dieu veut que nous transmettions à notre prochain. Allons à Matthieu 22, s'il vous plaît. Matthieu 22, Matthieu 22, et nous prendrons le verset 39. Matthieu 22, verset 39. C'est un pharisien qui demandait à Christ quel était le plus grand commandement. Et en fin de compte, le premier commandement a été donné, et voici le deuxième, au verset 39, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En général, toute personne qui se respecte elle-même ne détestera pas sa propre chair. On peut vérifier cela dans Éphésiens 5, s'il vous plaît. Éphésiens 5. Éphésiens 5, nous prendrons le verset 29. Éphésiens 5 au verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Tout ce que Dieu a mis de côté depuis Adam et Ève et qui feront partie de sa famille auront une fonction, un avantage particulier de posséder quelque chose que les autres n'auront pas, être des rois et des sacrificateurs. Mais pour accéder à ces postes, ils auront dû exploiter un des éléments clés qui leur permettront d'exercer ce privilège que Dieu leur accordera. Apprendre à s'aimer soi-même, tout en ayant compris qu'ils sont à la ressemblance de Dieu. C'est un des points de départ pour tous ceux que Dieu appelle et forme en eux un caractère digne de ce que Dieu attend d'eux. Rééduquer des personnes, les sensibiliser à ce que signifie aimer et être aimé pour être heureux implique d'avoir d'abord vécu cette propre expérience avec soi-même avant de pouvoir la transmettre à d'autres. Il n'y a rien de mieux que la réussite sur nos propres expériences dans ce domaine-là par l'intermédiaire de Christ vivant en nous, alors qu'il nous aura permis de les atteindre. Aimez-vous les uns les autres, cela implique d'avoir un premier regard sur nous-mêmes. Comment on se voit? Mais en même temps, c'est comment Dieu nous perçoit Jésus-Christ nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans différents endroits dans ce qu'il est venu nous apporter comme message, il pousse notre croissance spirituelle au besoin d'aimer également nos ennemis. Allons dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et nous prendrons le verset 43 et 44. Matthieu 5 au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'homme a été créé pour avoir besoin de Dieu. Il ne peut pas jouir d'une vie abondante, remplir sa mission d'être une lumière en toutes choses et être heureux à moins de rester en relation étroite avec lui. Dieu est un Dieu d'ordre et il s'attend à ce que ses enfants, qu'il appelle, puissent en arriver à développer cet équilibre au niveau de l'amour réel qui doit émerger d'eux afin de pouvoir aider les autres à faire comme eux. Ce qui implique à chacun de nous d'être entièrement sincère dans tous les gestes que nous posons autour de nous, incitant ainsi, par nos actions, le désir des autres à faire comme nous. Aimer son prochain, quel qu'il soit, est un réel mandat que Dieu nous impose, afin d'être heureux et de pouvoir être reconnus comme étant des disciples de son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'attend à ce que nous nous émerveillions dans ce corps que nous avons. Et c'est en ayant cette acceptation de ce que nous sommes que nous pourrons, avec l'assistance de Christ en nous, de pouvoir accéder à l'amour que nous devons manifester à l'égard de tous, y compris nos ennemis. Le sujet est trop vaste pour pouvoir en exploiter son plein potentiel en un seul exposé. Mais vous irez voir Romains 12, verset 19 à 21. Prenez-le en note, Romains 12, verset 19 à 21, qui nous donne des détails très importants concernant notre comportement à avoir envers nos ennemis. Ce genre d'action à poser ne peut être possible dans nos vies qu'après avoir franchi l'étape de s'aimer soi-même, de reconnaître notre ressemblance à Dieu et la valeur que chaque humain représente à ses yeux, et enfin de bien comprendre l'amour que Dieu déploie à l'endroit de chacun de nous et même de nos ennemis. Allons à un passage très connu, Jean, s'il vous plaît. Jean, et nous prendrons le chapitre 3. Jean au chapitre 3 et au verset 16, chapitre que nous connaissons très bien. Au verset 16, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on parle ici que Dieu a tant aimé le monde, pas juste nous. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous demande d'avoir un certain discernement à l'égard de l'amour que nous devons manifester à l'égard de notre prochain ou de nos ennemis. Au cours de notre appel, nous avons été mandatés pour aimer notre prochain et nos ennemis. Et dans ce mandat, il nous est également demandé d'haïr le péché et non le pécheur. Il est à noter que Dieu est très conscient du phénomène de s'accepter tel que nous sommes. Nous savons que ce n'est pas le monde parfait de Dieu. Au retour de Christ, toute chose sera changée et l'une de ces choses sera de remettre sur pied les réelles valeurs sur lesquelles les êtres humains doivent focaliser. À savoir que Dieu a créé l'homme à son image et l'homme a un temps à vivre dans cette enveloppe physique pour lui permettre d'accéder à l'accomplissement du développement complet d'un caractère dont Dieu veut voir en lui ou en elle, et que le temps passé dans ce corps physique doit être pour chaque humain un moment agréable et valorisant. Parce qu'en bout de ligne, la vie dans ce corps physique est d'arriver à la concrétisation de quitter ce corps pour en arriver à un autre qui sera parfait et éternel. Comment est notre valeur aux yeux du monde et comment est notre valeur aux yeux de Dieu? Si nous jetons un coup d'œil sur comment le monde perçoit notre valeur, c'est assez facile. Avez-vous un bon emploi, une assez grande maison? Certains même vont aller jusqu'à identifier la marque de votre voiture que vous possédez, ce qui, pour certaines personnes, leur permet de vous étiqueter comme étant une personne de valeur et n'ayant aucun problème de vous accepter parmi les personnes qu'ils considèrent ayant le droit de fraterniser avec eux. Sans oublier que pour certaines personnes, votre apparence physique peut même être évaluée pour être acceptée ou pas. Maintenant, comment est notre valeur aux yeux de Dieu? Voyons un passage qui nous ramène à la réalité du présent pour chacun de nous. Allons à 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, nous prendrons le chapitre 6 dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et nous irons désolé, je reviens. Ah, la technologie. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous avons vu au début de cet exposé sur quoi Dieu se base pour accepter et appeler une personne. Nous savons que notre taille, notre statut social ou nos capacités intellectuelles n'ont strictement rien à voir avec le fait que Dieu a bien voulu déposer ses yeux sur nous et nous donner ce privilège de le connaître, lui et son grand plan. Je ferai référence à ce passage qui est précis et très clair à l'égard de tous ceux que Dieu admet en tant que ses enfants ayant la possibilité de naître un jour dans sa famille. C'est dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 1. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre, je vais vous le lire. 1 Corinthiens 1, on le connaît très bien ce passage, 1 Corinthiens 1, versets 26 et 27. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 1, au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Au verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et regardez la sagesse de Dieu au verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Par contre, on peut constater que Dieu considère que le fait d'être une habitation pour son esprit a une plus grande valeur que tout ce que ce monde peut avoir à nous offrir. On a entendu et lu souvent le passage de 1 Corinthiens 3, 16, qui ressemble à 1 Corinthiens 6 et le verset 19. À la différence qu'au verset 19 de 1 Corinthiens 6, il nous dit que nous appartenons à Dieu et non à ce monde. Et si nous appartenons à Dieu, il y a matière à se réviser en tout temps et ce que nous représentons en tant que valeur très précieuse pour avoir ce droit d'être accepté par Dieu pour que nous devenions son temple et par la même occasion une lumière le représentant lui et son fils Jésus-Christ. J'ai une question pour chacun de nous. Vous pourrez lire des passages que vous connaissez, vous pourrez lire 1 Corinthiens 3, le verset 16, 1 Corinthiens 3, le verset 16, 1 Corinthiens 6, le verset 19, 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 2 Corinthiens 6, le verset 16. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Pouvons-nous imaginer ce que peut représenter le fait d'être appelé habitation de Dieu? Celui qui a créé toutes choses. Pour ceux qui connaissent un peu la chimie, Dieu maintient chaque molécule invisible à l'œil que représente chaque chose dans ce monde. Chaque molécule qui constitue notre organisme, toutes nos viscères composées de molécules différentes et chaque molécule que constitue l'univers. Une quantité innombrable de galaxies qu'on estime à des milliards. Je vais reprendre, je dis bien que nous pouvons, au verset 17 de 1 Corinthiens 3, il est très possible que nous perdions ce grand privilège d'être le temple de Dieu. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens 3, au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne serait-ce que sur ces quelques passages que nous venons de voir, je laisse à votre entière discrétion pour chacun de vous la capacité d'évaluer ce que vous pouvez représenter en tant que valeur pour celui qui existe depuis l'éternité et qui a dans son plan le désir de nous accorder ce même privilège, une vie éternelle. Si nous n'acceptons pas Si nous n'accomplissons pas de nous-mêmes les exigences que le monde requiert de nous pour lui plaire, nous serons rejetés de ce monde et nous n'aboutirons à rien pour ce monde. Par contre, même si nous n'avons pas toutes les capacités d'accomplir de par nous-mêmes ce que Dieu veut que nous accomplissons, nous avons la plus merveilleuse assurance que Dieu l'accomplira pour chacun de nous. Et je terminerai cet exposé avec cette promesse de Dieu lui-même par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Allons à Philippiens 1, s'il vous plaît, pour terminer. Philippiens 1. Et je prendrai le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je m'excuse pour le son qui a été coupé, mais je vous souhaite à tous un excellent sabbat et une agréable fraternisation.